Vous écoutez France Culture. Bonjour, François Strossard et l'équipe des Papous. Pour la récré de France Culture, au menu du jour, rayon farce et attrape, le jeu des suppositions, suivi de Périphrases en folie par Dominique Muller, Jacques Vallée, Hervé Le Tellier, Patrice Minet, le chandail.
Vous avez dans les chandails, le chandail à col en V, vous avez le chandail à col roulé,
oui,
etc. Ça compliquait énormément, j'étais forcé de faire la liste de toutes les possibilités.
Évidemment.
Donc j'ai pris que col,
oui,
qui
oui.
Simplifie les choses.
Oui.
Col, embrasure à manger de la tarte.
La chronique de Lucas Fournier, quand un Lucas lit une Eva. Et puis le pamphlet du jour et rimes de hasard pour des poèmes à notre façon. Et tout commence par le tirage au sort pour Jacques Bertrand et Eva Almassy.
Alors ça c'est un mot de Eva, et pas une autre Eva mais de moi. Trapéziste existe.
Trapéziste existe, vous voulez Jacques?
Oui, oui, oui.
Bon, alors je passe le chapeau à son propriétaire.
Voilà, passez-moi le chapeau.
Oui.
Nous sommes ensemble pour un beau dimanche papou jusqu'à 13h58. Ensuite, il sera temps de vous rendre sur franceculture.fr pour le téléchargement de ce numéro du jour pendant un an et la réécoute pendant 1000 jours directement sur notre page où vous pouvez écrire pour tout ce qui concerne l'émission rubrique commentaires. Et pour lancer ce numéro des papous, Lucas Fournier, Véronique Brindeau et Jacques Jouet avec le jeu des suppositions. 3 histoires aux chutes calembourgeoises et à l'entame en forme d'adresse à l'un d'entre nous. Suppose que tu t'appelles. Une dédicace suivie d'un nom qui permettra à son auteur de mener son récit jusqu'à l'apothéose d'un bon gros calembour culturel et délicieux pour l'esprit. C'est l'idée. Lucas Fournier ouvre la danse des suppositions. À qui vous adressez-vous, Lucas ?
Je vais m'adresser à Jacques. Mmh. Suppose, Jacques, que tu t'appelles Ché.
Oui, comme le Déva.
Ché, comme Ché. On ne va pas se le cacher, Ché, ça ne se présente pas bien à ton cas. Hein. Le cachet n'est pas bon. Hein. Je plante le décor, Ché. Quai des Orfèvres, 4 heures du matin. Ton dossier n'est toujours pas clos, Ché. C'est tout le contraire. L'inspecteur Bernard ne t'a pas lâché et toi, tu es là, Ché. Tu en as assez, Ché, de toutes ces questions. Et il reprend l'inspecteur. Bon alors, ce braquage place Vendôme, tu nous dis où est le butin? On a pris les 3 autres sur le fait avec leur collant dîme sur le visage. Et toi, tu les as laissés en plan, Ché, hein, tes copains. 1 heure après, on t'a accueilli sur le pont des Arches. Tu n'avais pas les bijoux, juste un bas roulé en boule dans ta poche. Sur le coucher, tu as dit que ce collant, c'était un cadeau de Lola Lampopo, danseuse au crazy. T'en as pas hyper marché de nous raconter des salades. Non, mais tu devrais passer à table. Allez, Ché. Et l'inspecteur Bernard continue. Pas de peau, Ché. Ce badim, c'est le même exactement que celui des 3 autres voleurs. Il a été découpé de façon circulaire pour vous servir de masque, pas pour les gambettes de ta danseuse. Voilà. C'est touché. Et là, tu es à boucher. Et l'inspecteur savoure. Il te la met sous le nez, cette paire de bas retaillés, les mêmes que ceux des braqueurs de la place Vendôme. Et voilà, tu as eu torché de t'obstiner. C'est toi qui as eu cette idée idiote de tailler au ciseau dans la paire de bas des ronds de tissu pour les adapter à ton visage. Et c'est pour sacher que tu vas aller au trou. Tu es foutu, tu es perdu. C'était écrit. Le bas rond perché.
Oh là là. Ah mais ça c'est très bien hein, parce qu'on voyait pas Italo non. Calvino surgir et il apparaît pouf,
eh oui,
à la fin.
Bien, oui,
parce que tous les petits chiens intermédiaires sont mignons hein. Ouais. Très très valeureux. Moi celui que j'ai particulièrement aimé c'était t'auras pas hyper marché.
Oui.
Hein, elle était très bien celle-là. Parce qu'elle avait double détente en quelque sorte. Et donc, le baron.
Le baron perché. Mmh.
Qu'est-ce qu'on lui dit, Jacques Jouy?
Mais perché on lui dirait quelque chose? Très bien.
Et pourquoi pas, Jacques? Véronique Brindeau, c'est à vous de jouer au jeu des suppositions. Et c'est votre première fois. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, elle va commencer. Et elle s'adresse à qui, Véronique?
Je m'adresse à Jacques Vallée.
Est-ce qu'il est d'accord, Jacques Vallée? Oui.
Suppose que tu t'appelles Pau.
Pau?
Oui, Pau.
C'est riche de possibilités pour le calembour final. Hein.
On peut dire que tu es né coiffé, Pau, et même avec une cuillère en argent dans la bouche, ce qui n'est pas du tout incompatible. Tu mènes la vie de château, dans ton domaine en bordure de la Méditerranée, avec une armada de serviteurs à tes ordres. Un majordome, un valet, un chauffeur, un cuisinier, un jardinier. Personne ne manque pour faire de ta vie un paradis. Un désir, un caprice, aussitôt tous s'exécutent. Avec un pareil équipage, tu pourrais être un odieux, un perfide, un bandit.
Non, c'est pas son genre.
On ne sait pas.
On ne sait jamais, oui, quoique.
Et pourquoi pas un monstre d'une laideur épouvantable?
Non. Non.
Jamais. Non.
Mais voilà, tu n'es même pas antipathique. Au contraire, tout le monde t'aime, Pau. Tu es une pâte, la crème des hommes, et beau comme l'Apollon du Belvédère.
Oui, il ne faut pas exagérer.
Non, si. Il y a de la ressemblance.
Il y a longtemps que tu ne l'as pas vu.
Mais il y a pis. Que toutes ces grâces réunies, car les fées, en se penchant sur ton berceau tout de dentelle et d'organdie, ne t'ont pas seulement fait bel homme, aimable et riche. Afin de te prémunir de tout despotisme domestique, elles t'ont rendu irrésistiblement drôle auprès de tes employés. Tu parais, on s'esclave. Tu te caches, on sourit encore. Tu ouvres la bouche, on se tord. Tu te tais que l'on rit encore à gorge déployée. Ce n'est plus un château, c'est une farce. Au fil des ans, ce don est devenu un fardeau. Tu es inévitablement drôle. Et à force de rire à tout va, rien ne va plus. Les ronces envahissent les fossés, ton domaine part en quenouille, les murs se lézardent, la toiture se disloque, te laissant l'usage imprévu d'un solarium le jour et d'un observatoire la nuit. Un conseil exceptionnel doit se réunir en présence de tous tes serviteurs. Et tu joues ton va-tout. Car un consortium lorgne le domaine pour le transformer en golf doté d'un hôtel de luxe.
Non, affreux ça. Oui.
Et si tu ne peux maintenir le sérieux de la réunion, c'en est fait de ce qui te reste de crédit auprès des banques. Il en va de ton avenir, mais aussi de celui du majordome, du valet, du chauffeur, du cuisinier, du jardinier. Tous l'ont compris et se tiennent prêts à braver la malédiction du rire. La réunion va bientôt se terminer, tout s'est passé normalement, ou plus exactement, sérieusement. Dans quelques minutes, le pari sera gagné et le domaine sauvé. Le majordome, le chauffeur, le jardinier, droit comme des i, se mordent les joues pour éviter de pouffer. Quant au cuisinier, il gesticule bizarrement, la toque à moitié enfoncée sur les yeux pour éviter ton regard, et t'adresse un signe désespéré en montrant du doigt le valet qui se gondole derrière un rideau. Si les actionnaires le voient, c'en est fini. Il y a urgence. Fais quelque chose, Pau, le valet rit.
Oh là là! Elle vient de si loin.
Mais pas tant, on est au bord de la
Méditerranée. Et en plus, ça s'adresse à valet. Le valet rit.
Mais oui, c'était fait pour lui.
Mais pas tant.
Paul, valet rit. Paul, le valet.
Oui, c'est un peu approximatif.
Oh non, je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Pas du tout. Elle est belle, non, Jacques Vallée?
Très belle, mais je ne l'avais pas vue venir.
Bah, personne, je crois. Non. Très, très bien pour un premier coup. Hein. Et Jacques Jouy, c'est très difficile de passer derrière Véronique. C'est quand même votre devoir.
Oui.
Et vous vous adressez à qui?
Alors, je vais m'adresser à Odile, tiens.
Oui.
Odile.
Oui, Jacques.
Suppose que tu t'appelles Larsène.
Bon, d'accord.
Et c'est un beau nom, dis donc, rien à dire. Enfin, si, il y a plein de choses à dire, justement. Tu t'appelles Larsène, mais c'est pas pour ça que tu es ingénieur du son, ce serait trop beau. T'es juste un peu cinglé du bricolage. Oui, c'est ça. Tiens, bricoleur de première bourre. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. C'est toi, oui. Qui range ses outils dans le lit conjugal, comme dans la chanson. Mais ta partenaire en a eu assez et t'a mis à la porte, Larsen. C'est bête. Elle t'a mis à la porte au printemps. Ça aurait pu être pire. Au printemps, on peut toujours dormir dehors, dans l'indifférence générale du citadin blasé qui ne voit pas pourquoi il aurait vocation à prendre sur lui toute la misère du monde. Mais, heureusement pour toi, Larsen, tu as plus d'un tour dans ton sac et tu t'es mis à confectionner de splendides tableaux de bricolage qui ressemblent un peu à des fétiches à clous d'Afrique centrale qui, vendus 3 sous aux touristes, te permettent à peu près de manger tous les jours. Que tu dormes sous les ponts en cette période de réchauffement climatique n'est pas trop pénible. Ça va. Le seul problème, c'est la difficulté que tu as à t'approvisionner en outillage. Ainsi, l'autre jour, il te manquait un rabot. Et dès que ça s'est su sur les réseaux sociaux, ça c'est de la littération, hein, dès que ça s'est su sur les réseaux sociaux, donc dès que ça s'est su sur les réseaux sociaux, les Parisiens se sont mis en quatre pour te payer un rabot. Mais c'est pas un rabot qu'on t'a livré à ton sans-domicile. Pas 2, pas 3, mais 500. Que dis-je, 1000. Ça marche pour toi. Sous le pont, 1000 rabots. Cool, Larsen.
Oh. Oh, c'est ravissant. Flatté, Odile.
D'être un mari bricoleur, brièvement, oui, très. Demos un paseo, vamos hasta el parque.
Todos me miran, creen que estoy chiflado, solo porque hablo con vos. Y no se dan cuenta que te llevo adentro, flaca, qué linda sos. Y no se dan cuenta que te llevo adentro, flaca, qué linda sos.
Caceres. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pour les accros à la périphrase, ceux qui refusent la facilité que représente l'emploi du mot juste au profit d'une belle métaphore ou d'une définition subjective du mot. Quand les précieuses de Molière parlaient des commodités de la conversation au lieu d'employer le mot fauteuil ou du conseiller des grâces pour ne pas nommer le miroir, ça avait du charme. Maintenant, qu'en est-il de la transmission du sens si on abuse de la périphrase? Réponse et démonstration par Patrice Minet, Dominique Muller, Hervé Le Tellier, qui vont à tour de rôle périphraser chacun 3 substantifs appartenant à une certaine phrase, la phrase évoluant au fil des étapes pour devenir un long texte qui sera confié à Jacques Vallée pour l'opération inverse, débusquer les mots sous les périphrases et retrouver, qui sait, la phrase de départ. Il est fort, Jacques Vallée, il peut le faire. Pour la chaîne de périphrasage, en piste, Patrice Minet. On découvre la phrase en jeu, Patrice, celle que je vous ai offerte.
Elle avait baissé la capote de sa voiture, remonté le col du chandail qu'elle avait emprunté à Jacques, et le froid lui durcissait le visage.
Bon, c'est signé. Ah. Qui est l'auteur qui a écrit ça? Voyons, c'est simple, c'est... C'est un style qu'on identifie immédiatement, Dominique.
Tardieu.
Non. On joue parfois avec Tardieu, c'est vrai, mais pas aujourd'hui. Alors bon, aucune idée?
Aucune, François. Aucune.
Bon, voyons le prénom, Jacques, la décapotable, tout ça, c'est signé, non?
François Sagan. Voilà.
Mais oui, François Sagan.
Mais le chandail, alors, la voiture a un chandail.
Évidemment, c'est dans un mois, dans un an.
Mais cette phrase ne tient pas debout, il y a la voiture qui a un
chandail.
Elle
avait baissé la capote de sa voiture, remonté le col du chandail qu'elle avait emprunté à Jacques. Et le froid lui durcissait le visage. On est dans l'univers de Sagan. Alors, vous ne l'avez pas senti, Patrice Minet, tant pis pour vous. Oui. Mais vous êtes quand même au départ de l'aventure périphrasique que va subir cette phrase. Avant, j'aimerais demander à Jacques Vallée. Bon, vous avez entendu la phrase de Sagan. Entre vous et elle, il y a Patrice Minet, Dominique Muller, Hervé Le Tellier, qui ont plein de choses en tête, pas forcément du Sagan. Est-ce qu'un peu de Sagan vous est arrivé?
Oui, il y a des images qui sont restées. Oui. Et la fin est plus précise.
D'accord, mais il y a cette espèce de tendresse, de joliesse.
Si vous voulez.
C'est quand même bizarre, j'ai tout fait pour que ça disparaisse.
Bon, Patrice Minet, vous avez eu cette phrase de François Sagan, vous avez choisi 3 substantifs, il y en avait beaucoup, il y avait le choix.
Voilà, j'en ai pris que 3.
Oui.
J'ai pris col, remonté le col du chandail.
Oui.
J'ai pris froid et visage.
Alors, vous avez pris froid. C'est à cause de la décapotable, ça.
Bah, écoutez,
c'est
oui.
C'est pas bon pour la santé.
C'était pas la bonne saison, si vous voulez.
Ce qui est bizarre, c'est que vous ayez pris le col sans prendre le chandail. Ça va compliquer, à mon avis. Oui, d'accord. Alors, le
Pourquoi
col
vous
devient
dites ça
quoi
non, bien, ça
non, vous auriez pu choisir col du chandail, quoi.
Alors, non, parce que j'aurais eu un choix, parce que vous avez dans les chandails le V, le chandail à col en V,
oui.
Vous avez le chandail à col roulé,
oui.
etc. Ça compliquait énormément, j'étais forcé de faire la liste de toutes les possibilités.
Ah, évidemment, évidemment.
Donc j'ai pris que col,
oui.
qui oui. simplifie les choses.
Oui.
Col, embrasure à manger de la tarte.
Hein
oui, oh. le col à manger de la tarte. C'est un,
la
c'est...
pelle à tarte, c'est ça, les cols en pelle à tarte. Ah Ah
ça,
bon
ça aide tout de suite. Hein. C'est vrai que lorsqu'on voit arriver en brasure à manger de la tarte,
oui.
on pense tout de suite au
c'est
col.
C'est une image, c'est comme ça.
J'ai vu tarte non, et chandail, j'ai pensé à col, mais je n'avais pas à le rapetisser.
Non, mais Minet a des difficultés à manger proprement, probablement. Il y a toujours des miettes qui tombent, c'est
oui,
ça l'idée. Sur... Hein.
Oui, bon, enfin, c'est... on mange très proprement en mettant ses miettes sur son col.
Oui.
Mais il n'y a pas que les miettes qui tombent.
voilà, alors ensuite j'ai pris froid.
Oui, alors froid. Voilà.
Baisse de température précédant la fièvre.
Bon. Non, c'est pas faux. Hein. C'est voilà. une des définitions de froid. Non, quelque chose à redire, Jacques Jouet. Froid, baisse de température.
Ben, ça dépend de d'où on part.
Vient. Oui, si on est, oui.
On dit baisse de température.
En Alaska, c'est pas forcément ben, ça. Oui.
oui, oui, oui.
Voilà. Oui, bon.
Non, mais c'est votre point de vue, Patrice Minet. Hein.
Je savais pas que c'était de Sagan, mais je trouve que c'est dans le fil direct de Sagan.
Ben, de toute façon, oui.
Visage.
Fil du chandail. Hein.
Ce qui précède la bouche quand elle dit oui et le regard dit peut-être.
Là,
quand la bouche dit oui, là. Le regard dit peut-être.
Oh alors la bouche dit oui.
Visage de traître.
Ah, ah oui, mais ça c'est la traîtrise, tu l'as ajouté.
Oui,
non, je le dis maintenant.
Oui, et ça. Le visage de Madone.
De Madone.
Ce qui précède le oui quand les yeux disent non, c'est ça ?
Non,
disent peut-être.
Visage
disent
de traître. Peut-être. Visage de traître. Quand la bouche dit oui, le regard dit peut-être.
Oui, donc c'est déjà une certaine catégorie oui. de visage pour laquelle vous avez opté.
Oui,
j'ai opté bah pour oui. la traîtrise. Donc.
Bah oui. Oui.
Oui. oui.
Et je peux te dire que ça va durer.
non, la traîtrise, j'ai bien senti, moi, la traîtrise.
Je peux te dire qu'il est...
Personne n'a réussi à s'en débarrasser.
Jamais. Même pas moi. Non.
Alors, que devient cette phrase de François Sagan, transfigurée par vous ?
Alors, je n'ai pas touché au début, vous avez constaté. Hein. Elle oui. avait baissé la capote de sa voiture.
Oui.
Remonté l'embrasure à manger de la tarte du chandail qu'elle avait emprunté à Jacques.
Oui.
Et la baisse de température précédant la fièvre lui durcissait ce qui précède la bouche quand elle dit oui et le regard dit peut-être.
Bah, ma foi, quand elles sont mélangées au texte initial,
ordonnée,
les périphrases
François,
passent
pas mélangée,
bien.
Dispersées.
Ça a du bon, sens, on n'est pas si loin du départ. Hein. Bon, à part l'histoire de l'appel à tarte.
Vous avez bien fait de ne pas toucher à la voiture. Est-ce que vous avez un permis de conduire ? Non.
Non, mais j'étais limité. Je n'avais droit qu'à trois substantifs.
Eh oui, évidemment. Bon, Dominique Muller, vous avez reçu ce texte
oui.
de Patrice Minet. Vous l'avez compris ?
Je l'ai parfaitement compris, mais je ne l'ai pas reconnu, Françoise Sagan, je dois dire.
Bah, elle s'est un peu transformée quand même, ben, voilà. oui, oui. Et donc, vous avez à votre tour joué.
J'ai choisi trois substantifs, dont le premier est voiture.
Oui.
Et c'était un peu compliqué, parce qu'elle avait baissé la capote de... Donc, il fallait que je trouve quelque chose qui soit pourvu d'une capote.
Ah, oui. Ah.
Donc, j'ai traduit.
Et, si
qui soit, et qui soit néanmoins parfaite, qui n'est rien de tendancieux, etc. Donc, voiture, enfant né d'un esprit aux mille tours, c'est les tours du moteur,
oui.
à l'appétit vorace, parce qu'il faut mettre de l'essence
oh,
dedans.
C'est bien.
Voilà. Et puis la capote de l'enfant, c'est la capote évidemment du landau.
Du landau, en fait. Du landau anglais.
Voilà. Température, ensuite.
Oui.
Alors, il n'y a pas forcément de froid dans cette histoire. Pour moi, c'est une impression subjective que d'aucuns s'évertuent à quantifier, comme si un objet, c'est-à-dire un thermomètre, pouvait traduire les sentiments.
Ah oui, c'est la fièvre, mais c'est plus la fièvre morale.
C'est la température que nous ressentons oui, oui. dans une assemblée
oui, oui.
Glaciale, chaude.
Oui,
voilà.
oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Jacques Jouet ?
Oui.
J'en pense du mal, semble-t-il.
Non, je ne pense pas du mal. Ça a tendance à se réchauffer un peu par rapport au texte précédent.
Ah oui, on n'est plus dans l'ère glaciaire.
Oui, oui. oui, on a changé de saison.
Et ensuite ?
La bouche.
Oui.
Organe où s'engouffre la vie, c'est quand on mange.
Hum.
dépasser parfois en immatérielle représentation. C'est quand les mots dépassent la pensée. Ce qui devient...
Oui, s'il vous plaît.
Je suis restée dans le ton de Patrice.
Ah oui.
Je trouve.
C'est fort. Mais loin de Sagan, quand même.
Toujours, elle avait baissé la capote.
Très bien.
De son enfant, né d'un esprit aux mille tours à l'appétit vorace, remonter l'embrasure à manger de la tarte du chandail qu'elle avait emprunté à Jacques, il est toujours là, on ne sait pas si c'est l'enfant ou elle qu'il porte, oui. Et la baisse de l'impression subjective que d'aucuns s'évertuent à quantifier, comme si un objet pouvait traduire les sentiments, précédant la fièvre, lui durcissait ce qui précède l'organe où s'engouffre la vie, dépassé parfois en immatérielle représentation, quand elle dit oui et le regard dit peut-être.
C'est pas mal, parce que le texte de Françoise Sagan était extrêmement structuré. Bon, il y avait le fait d'emprunter quelque chose à Jacques, il y avait l'idée de remonter quelque chose, de durcir.
Elle continue à faire
donc,
tout ça. Hein.
Finalement, l'histoire de l'endroit qui amène la vie, enfin, c'est un peu ambigu, ça, hein, je trouve. Mais bon.
Ce sont des images.
Vous savez, où
oui.
Aller savoir où va se cacher la vie, où elle
et
va
justement,
se nicher.
Oui. Ça. Alors moi, je redirais à ce moment du jeu la phrase de Françoise Sagan, piochée dans un mois, dans un an. Elle avait baissé la capote de sa voiture, remonté le col du chandail qu'elle avait emprunté à Jacques, et le froid lui durcissait le visage. Je suppose que ce texte de Dominique Muller qu'on vient de découvrir, Hervé Le Tellier, vous est apparu assez transparent, non ?
Oui, enfin, ce qui est certain, c'est que ce n'est plus un texte de Sagan, donc c'était transparent et j'ai augmenté sa translucidité.
Ah oui ?
Oui, alors j'ai pris enfant.
Jacques Vallée, qui est derrière vous, n'a pas l'air d'approuver votre commentaire.
Alors, hein. Nous allons voir.
Oui. Oui. Enfant, être qui, chez les latins, ne parlait pas, mais qui a désormais pris le pouvoir. Oui. Impression.
Pourquoi il ne parlait pas chez les latins ?
Infance, qui ne parle pas.
Ah, exact. Ouais.
Impression. Idée fondamentale sans laquelle la peinture du 19e n'aurait jamais connu l'impressionnisme.
Oui, ça éclaire
ça,
tout.
C'est
ça.
Sûr que quand on le sait à l'avance, oui.
Oui, mais là, vous avez un petit peu triché parce que vous n'avez pas pris le mot dans le sens qui vous était proposé.
Ah, je ne savais pas quel était le sens qui vous était proposé. C'est le problème, quand même.
C'est
qu'on a le droit à tous les sens puisque c'est une ambiguïté totale.
Oui. Bon, voilà. Je retire mon reproche.
Quant à représentation, là, je dois avouer que j'ai un peu triché. Situation de loisirs culturels menacée par la remise en cause du statut des intermittents.
Oh, ben non, c'est pas tout. Ah.
Ah, évidemment, évidemment. Bon, mais oui, mais c'est un sens plus large. Oui,
oui,
oui.
Oui, mais enfin.
Non, mais il savait que c'était pas le sens.
Oui, là, j'avais
non,
une
non,
vague
mais
idée.
Il l'avoue, il l'avoue. Il faut l'avouer.
Péché avoué, pas du tout pardonné.
Évidemment, comment voulez-vous qu'avec tout ça, le pauvre Jacques Vallée retrouve Françoise Sagan? C'est compliqué.
J'ai retrouvé un peu.
Ah, mais vous êtes trop fort, on va voir. Alors, lisez-nous le nouveau texte.
Elle avait baissé la capote de son être qui, chez les latins, ne parlait pas, mais a désormais pris le pouvoir, né d'un esprit aux mille tours à l'appétit vorace. Point. Elle avait remonté l'embrasure à manger de la tarte du chandail qu'elle avait empruntée à Jacques, et la baisse de l'idée fondamentale, subjective, sans laquelle la peinture du 19e n'aurait jamais connu l'impressionnisme, que d'aucuns s'évertuent à quantifier comme si un objet pouvait traduire les sentiments, précédant la fièvre, lui durcissait ce qui précède l'organe où s'engouffre la vie, dépassée parfois en immatérielle situation de loisirs culturels menacée par la remise en cause du statut des intermittents. Quand elle dit oui, et le regard dit peut-être.
Oui, alors évidemment, moi j'étais captivée par ce que vous disiez, donc je n'ai plus entendu Jacques. Il est toujours là, Jacques ?
Ah oui, le chandail emprunté à Jacques n'a pas bougé
d'un poil.
Moi,
je suis contente parce que c'est
juste
un moment
après l'embrasure à manger de la tarte.
Oui, alors.
J'aimerais qu'on lui rende le chandail déjà parce que c'est pas très chaud dans ce studio.
Qui est ce Jacques à qui
tout
on peut emprunter
cela
des
est parti d'une phrase de Sagan. Elle avait baissé la capote de sa voiture, remonté le col du chandail qu'elle avait emprunté à Jacques, et le froid lui durcissait le visage. Bon, alors évidemment, Jacques Vallée, avec Hervé Le Tellier, on a les intermittents du spectacle, on a l'impressionnisme. Il ne peut pas s'empêcher d'amener de la culture partout.
Ah oui,
quoi.
On était... surtout chez les latins.
Personne n'écrit comme ça. Hein. À part Hervé, personne aujourd'hui n'écrit comme ça.
On était tranquillement dans une décapotable.
Il faisait un peu frais, mais pas tant que ça.
Oh, peut-être. Oui, peut-être. Un peu, peut-être.
Et plouf, voilà les intermittents du spectacle.
Oui,
et
mais l'impressionnisme. C'était assez, finalement, c'était assez facile.
Alors, Jacques Vallée, vous, vous nous faites votre grand numéro de périphrasage.
Alors, au début, il y a Capote. Je n'ai pas pensé Capote de voiture, ou du moins, je n'ai pas retenu cette hypothèse. Et elle avait baissé la capote de son être, qui, chez les Latins, ne parlait pas, mais a désormais pris le pouvoir, et d'un esprit aux mille tours, un appétit vorace.
Oui.
Et j'ai pensé que tout ça, ça évoquait très facilement la tête, parce que la capote, ça peut être mis sur la tête. Ouais. Le pouvoir, c'est ce qui monte à la tête des gens, l'esprit, c'est dans la tête, et l'appétit vorace, ça se passe aussi dans la tête.
Mais c'est très juste.
Donc, elle avait baissé la tête.
Bah, oui. C'est simple. On fait toujours
c'est tout
ça.
Simple.
Oui, bien sûr.
Elle avait remonté alors l'embrasure à manger de la tarte du chandail qu'elle avait emprunté à Jacques. Oui. Ça, j'ai gardé le chandail de Jacques, mais parce que je ne savais pas trop quoi en faire. Et la baisse de l'idée fondamentale subjective, sans laquelle la peinture du 19e siècle n'avait jamais connu l'impressionnisme, que d'aucuns s'évertuent à quantifier comme si un objet pouvait traduire les sentiments précédents la fièvre. Alors, là, j'ai pris le contraire de la subjectivité, c'est-à-dire l'objectivité, et cette femme est en train de refermer son chandail et elle regarde la réalité en face.
Bah on fait toujours
tête
ça. Ba... Hein,
non, elle a la tête baissée, je vous dis.
Oui, mais
en réalité, en bas.
Elle la regarde pas en dessous.
Oui, non, mais en refermant son chandail, elle la relève. Vous pouvez penser qu'elle ne la garde pas baissée.
Mais qu'est-ce qu'elle fait de la tarte? La tarte est disparue quand même.
La tarte, c'est l'embrasure à manger de la tarte, c'est le chandail qui baie.
Oui, oui, oui.
Elle ne ferme.
Bah, c'est tout à fait correct. Ouais. Normal, oui.
Donc après, comme si un objet pouvait traduire les sentiments précédant la fièvre, lui durcissait ce qui précède l'organe où s'engouffre la vie. Je n'ai pas pensé à la bouche, j'ai pensé plutôt à la poitrine. J'ai la pensé aux poumons.
Ah.
Et ce qui précède l'organe des poumons, ben, c'est la poitrine.
Et c'est donc l'air qui y rentre.
Non, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de...
Directement par les tétons.
Mais écoutez, ça durcit,
faut
ça
pas
traduit...
Avoir fait médecine.
ça traduit des sentiments précédents, la fièvre. C'est dépassé parfois en immatérielle situation de loisirs culturels menacés par la remise en cause du statut. Et tout ça, c'est qu'elle a la poitrine oppressée. C'est de l'oppression.
Mais bien sûr.
C'est l'oppressionnisme, bah, alors.
Mais non, elle regarde la réalité en face. C'est l'objectivité de la peinture. Et après, elle a la poitrine oppressée. Et ce qu'il donne comme phrase, alors je garde la fin, elle avait baissé la tête. Elle referma le chandail emprunté à Jacques et regarda la réalité en face. La poitrine oppressée, elle dit « oui », mais son regard dit « peut-être ».
Mais elle dit ça à qui, au fond? Il y a qui
dans
la
voiture?
Aux intermittents.
Il y a quelqu'un à côté d'elle dans la voiture, évidemment. Mais elle n'est pas dans une voiture.
C'est Sagan, hein. On est quand même chez Sagan.
Non, moi, chez moi, c'est Simone de Beauvoir.
Ah, ouais. Écoutez, Patrice Minet, relisez-nous la phrase de Françoise Sagan, s'il vous plaît.
Je vous la relis parce que finalement, après ces explications diverses et variées, Sagan a une façon d'écrire assez simple.
Oui.
Et quand j'écoute en fond ce qu'a voulu dire Sagan, je m'aperçois que c'est pas si simple. Voilà. Maintenant, je lirai les livres de Sagan tout à fait autrement,
oui.
Grâce
alors,
à vous.
Alors
elle avait baissé la capote de sa voiture, remonté le col du chandail qu'elle avait emprunté à Jacques, et le froid lui durcissait le visage.
Oui, et donc, Jacques on...
Elle avait baissé la tête, elle referma le chandail emprunté à Jacques et regarda la réalité en face. La poitrine oppressée, elle dit oui, mais son regard dit peut-être.
Et c'est du beau voir.
Oui.
Ah, moi, je trouve que c'est éblouissant, d'autant que dans un mois, dans un an, le roman de Sagan parle d'une actrice. Et cette actrice travaille le rôle de Bérénice dans un mois, dans un an. Comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mères me séparent de vous, que le jour se lève.
Mais l'actrice travaille de façon intermittente dans le...
Exactement.
Soleil dégringole dans la rigole et puis s'envole. fraîche des écrevisses pour mettre dans les sandwichs. On fait soleil commun pour ton bien, pour tes pieds, pour tes mains. Boulevard des Batignolles, on marche en casserole ou en gondole quand on est riche. On partage les sandwichs, les étoiles, les pois chiches. On fait amour commun pour ton bien, pour tes pieds, pour tes mains. Le soleil quand il vient, il te prend la main, il t'emmène dans mon coin. Batignolles, c'est bien. Batignolles, c'est ma vie, et ma vie c'est Paris. Les tropiques, c'est ici aussi. Boulevard des Batignolles, soleil dégringole dans la rigole, et puis s'éteint. On fait des jeux la nuit, la mer au bord du lit. On fait naufrage commun pour ton bien, pour tes pieds, pour tes mains. Le soleil quand il vient, il te prend la main, il t'emmène dans mon coin. Batignolles, c'est bien. Batignolles, c'est ma vie, et ma vie c'est Paris. Les tropiques, c'est ici.
Yvan Dautin, boulevard des Batignolles. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, Françoise Tressart et la bande des papous du jour. À suivre jusqu'à 13h58, quand un papou lit un autre papou. Et puis, râleurs en tout genre, à vos pamphlets. Enfin, rime de hasard pour poème à notre façon, suivi de la critique des bourrimés. Alors, quand un papou lit un autre papou, une chronique d'un papou l'autre, pour donner envie de lire les livres écrits par les écrivains de la bande, livres collectifs comme « Les 36 facéties pour des papous dans la tête », coédition Carnet Nord France Culture, ou livres en solo comme ceux cette saison de Gérard Mordilla, de Patrice Delbourg, de Jacques Jouet ou d'Eva Almassi. Eva, elle écrit pour les grands, mais aussi pour les 10-12 ans. Et son petit dernier vient de paraître à l'école des loisirs avec des dessins de Tan Portal, son titre « Le petit principe ». Lucas Fournier, vous avez lu comme nous tous au Papou « Le petit principe » d'Eva et vous nous racontez.
Oui Françoise.
Et alors ?
Et alors en principe et aux dernières nouvelles, le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry serait tombé dans le domaine public. Il est tombé sur Eva Almassi, il aurait pu tomber plus mal.
Oui.
Alors, Le Petit Prince, nous savons tous l'histoire par cœur, à force de l'avoir lu, et pire, de l'avoir entendu, susurré par Gérard Philippe et Georges Poujouly. Seule la Bible, qui raconte aussi une histoire d'un garçon tombé sur terre et qui retourne au ciel, seule la Bible a eu plus de lecteurs. Elle avait aussi beaucoup plus d'auteurs. Mais revenons à nos moutons.
Oui.
Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un dessin à la radio, ce serait idiot. Donc, il existe sur terre deux sortes d'individus. Ceux qui détestent Le Petit Prince et ses allégations mièvres, et les autres, si nombreux, qui ont trouvé un sens à leur vie grâce à ces slogans dignes de sujets pour le brevet des collèges. L'essentiel est invisible pour les yeux.
Ah oui,
ou ça, mieux,
c'est beau,
on ne voit bien qu'avec le cœur.
Ou encore, c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante.
Oui.
Eva.
Il ne s'en souvenait pas, Gérard.
Non, je fais partie du club de ceux qui ont horreur du Petit Prince.
Oui, mais là, c'est le petit principe d'Eva Almassi.
Justement.
Ça n'a rien à voir.
Et parlons d'Eva, parce que Eva, qui dans le fond aime les gens, n'a pas pris parti dans ce débat coriace né au cœur du Sahara et développé dans les galaxies. Elle a très bien fait. Avec un sens du compromis très Middle Europa, elle a choisi de composer. Eva est une femme de bonne composition. Et cette disposition d'esprit se retrouve dans le choix de son éditeur. L'école,
des loisirs.
Un oxymoron qui plaira aux premiers de classe, l'école, comme aux adeptes de l'école buissonnière. Eva s'est donc emparée du Petit Prince, à qui elle a ajouté l'IP, avec adresse, bien sûr, et affublé de ce IP, le petit prince devient le petit
principe.
Principe. Ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Et cette métamorphose est une synthèse républicaine qui ravira le fan club du PP et consolera largement ses contempteurs. Donc, petits et grands qui adulaient le petit prince, vous ne serez pas déçus. Eva a revisité. Alors, oui, je sais, revisiter est un tic de langage juste énervant, comme juste, justement. Eva a revisité votre petit prince en respectant tous les fondamentaux. D'abord, il y a les illustrations. Celles-ci sont d'une main gracieuse et plutôt très réussie, signée Tan Portal.
Oui.
Ensuite, toutes les préconisations du Da Petit Prince Code sont là. La panne de l'avion tombé dans le désert, qui se transforme avec Eva en panne de vaisseau spatial dans le silence pascalien des espaces infinis. Le surgissement du petit principe sorti de nulle part. Le voyage galactique conduisant notre petit héros de trou noir en trou noir vers des personnages pittoresques qui valent bien l'allumeur de réverbère ou le businessman. Et à la fin, le jeune héros de cette histoire disparaît, mais pas de façon cruelle comme chez Saint-Exupéry à cause de ce serpent tout droit sorti du sein de Cléopâtre. Non, chez Eva, avec légèreté, grâce à la complicité d'une tortue. Quant aux autres, les anti-monarchies, les petits princophobes, ceux qui, dans la famille tombée du ciel, préfèrent Higelin à Saint-Ex, ils trouveront dans ce petit principe de quoi se venger du blondinet en cape bleue qui, depuis 70 ans, cherche à les apprivoiser. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? D'abord, Eva joue sur les mots et même avec les mots, ce qu'on trouve très peu chez Saint-Ex. L'humour hongrois est très éloigné de celui des Argentines que pratiquait le cher Antoine. Ensuite, Eva règle leur compte avec l'arme charmante de son petit principe à quelques-uns des plus horripilants personnages de notre société postmoderne. Le psychiatre pour enfants, le jeune,
ah oui,
le producteur de séries télé et le corps enseignant. Spécialement les professeurs de physique. Elle les désingue, comme on dit dans l'aéropostale, avec gentillesse, mais résolution. Alors Eva vous laisse le choix entre le petit prince de 1943 et son petit principe de 2014. Rien n'a changé en apparence, et pourtant tout est différent. Le temps a passé à la vitesse de la tortue, de la gazelle, du guépard, de la lumière, c'est vous qui voyez. Et puisque nous traitons de zoologie, dans le livre d'Eva, il n'y a pas de lézard. Et bonne nouvelle, pas de renard non plus. En principe, vous m'avez compris, ce livre physique-chimie, mais surtout physique et métaphysique, est, selon votre disposition d'esprit, une introspection existentielle sur notre petit univers, au-dessus de la Terre des hommes, ou encore une équipée joyeuse dans les féeries étoilées, ou enfin un vol de nuit en découverte de l'âme d'Eva, simple dans l'ensemble, mais si sophistiquée dans les détails.
Le Petit Principe, c'est un livre pour les enfants, pour les jeunes, écrit par Eva Almassi.
Et les parents des enfants.
Oui, aussi, ben c'est eux qui achètent les livres.
Ne l'oublions pas.
Illustré par Tan Portal et c'est publié à l'École des loisirs. The planet of my dreams, the earth, my earth, is bulging at the seams, the earth. It's full of many schemes, and as the sunlight beams, the glory of our sciences and militant alliances reveal their basic worth along the mounds of their appliances. Ooh, ooh, the planet of my dreams, the earth, my earth. I hear its muffled screams, the earth, my earth. And though it often seems from television beams that ignorance is rampant there and governmental goons don't care, I know that I shall not despair and cheat like all the rest. I'll just keep on with what I do now best. Cheat, 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 go ahead. I can't do it. Cheat, 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 go ahead. I can't do it. Cheat, 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 go ahead. I can't do it. La planète de mes rêves par Frank Zappa. À chacun son coup de gueule, à chacun sa façon de râler contre ce qui horripile, glace le quotidien, donne des boutons à vos pamphlets. C'est Patrice Minet qui s'énerve. Et contre quoi, Patrice, ou qui ?
Contre un animal domestique.
En général ou...
Ah non, non, très particulier. Oui, oui, que vous allez reconnaître. Mm-hmm. Quand j'ouvre la porte qui donne sur l'escalier de ma cave, à chaque fois, même après toutes ces années, mon cœur bondit dans ma poitrine, mes genoux se dérobent, mes cheveux se dressent sur mon crâne. Et ce n'est pas la crainte de l'obscurité. Qu'est-ce que vous croyez, j'ai allumé la lumière? Non. Une énorme araignée sort précipitamment de son trou et se précipite vers moi pour vérifier qui vient d'entrer. Je l'appelle Nosferatu. Quand elle s'aperçoit que ce n'est que moi, elle me tourne le dos et disparaît en m'ignorant désormais comme si j'étais de la crotte de bique. Oh, les araignées, on n'est pas de la crotte de bique. Mais voilà la triste vérité, pour les araignées, on n'est moins que rien. Il est vrai que je ne tisse pas ma toile, je n'attrape pas les mouches et je ne dévore pas non plus mon amoureux après la copulation. Je suis tout de même respectable. Et ça, ça me met en colère et ça me rend profondément triste. Triste au point que j'en ai les larmes aux yeux. Oh, je sais bien ce que certains pensent. Ils pensent, espèce de trouillard, pleure, pleure, tu pisseras moins. C'est comme disait ma grand-mère. Cette ironie lamentable ne vous grandit pas. Moi, je ne tue pas les araignées. Je les respecte, car c'est un animal horrible qui fait atrocement peur.
Je suis d'accord.
Et avec lequel tout dialogue est difficile. Si j'étais cette petite chose lamentable et poilue qui jaillit pour courir entre mes jambes, croyez-vous que je reculerais? Certainement pas, car la fuite rend toute discussion impossible. On est dans le déni. Les araignées sont des êtres épouvantables qui se glissent dans votre cou pour vous chatouiller même quand vous n'avez pas envie de rire. Elles mangent des trucs immondes et encore vivants qui vous dégoûteraient, famine ou pas. Une seule piqûre et votre épaule prend la taille d'un jambon de Bayonne. Je me suis laissé dire qu'en Amazonie, il en existe de la taille d'une assiette, avec des yeux à la jointure des pattes, et qui bondissent hors de leur terrier pour vous arracher un morceau de chair. Elles sont toutes noires, pleines de poils, elles sont venimeuses, elles sont partout, dans tous les coins sombres. Et pour elles, vous avez moins de valeur qu'un moucheron. Je ne demande pas qu'elles soient amoureuses de moi, qu'elles se laissent caresser l'occiput en ronronnant, ni qu'elles se prêtent en cas de rencontre à une conversation à bâton rompu autour de la critique de la raison pure ou des mérites comparés de la 2CV et de la Renault 4L. Ce genre d'exigence me semble hors de portée de ce cauchemar rampant. Quand je descends dans ma cave, au moins qu'elles restent cachées dans leur trou, et si elles en sortent, qu'elles viennent en tremblant de leurs 6 pattes me faire une petite révérence pour s'excuser d'exister, avec peut-être pour les plus câlines un mot gentil, une petite remarque drôle et si c'est pas trop demandé, un petit bisou le jour de mon anniversaire.
Oh, ce serait mignon ça, ben oui. Vous savez ce que je fais, moi, Patrice Minet?
Non.
Je ne descends jamais à la cave.
Ah oui, mais moi je suis obligée parce que chez moi, personne ne veut y descendre.
C'est parce que vous allez fumer en cachette, c'est ça?
Parce qu'il habite dans la cave.
C'est la chambre d'amis.
Dites-moi, Jacques Bertrand, vous aimez les petites bêtes, vous?
J'adore les petites bêtes et spécialement les araignées.
C'est vrai?
Oui, oui.
C'est vos amis?
Oui, oui, tout à fait.
Mmh. Et alors, et qu'est-ce que vous lui dites?
On se fait des idées sur les araignées. Et d'ailleurs, elles se font sûrement des idées sur nous. Ce sont des êtres très intelligents et très cultivés qui ont connu cette planète plusieurs millions d'années avant nous. Et il n'est pas impossible qu'elles soient encore là des millions d'années après nous. Mmh. C'est-à-dire que l'araignée est appelée araignée encore un certain temps sur ce monde. Certaines d'entre elles, comme leur cousin scorpion, résistent à la radioactivité. J'ai été très ami avec une araignée. Jean-Claude Pirotte en avait apprivoisé une demi-douzaine. Ou bien il avait été apprivoisé par elle, mais n'est-ce pas à peu près la même chose? La plupart des araignées ont entre 6 et 8 yeux.
Ah oui, quand même.
Ce qui leur permet d'apercevoir Patrice Minet bien avant qu'il ne les repère. Et elle possède 8 pattes. Comme Patrice n'en compte que 6 à la sienne, on peut présumer qu'il en a arraché 2. On savait déjà qu'il avait des papous dans la tête. Aurait-il en outre une araignée dans le plafond?
Je ne répondrai qu'en présence de mon avocat.
Ne tuez pas les araignées, ni le soir ni le matin. Car l'araignée que vous tuez le matin, chagrin, vous l'auriez peut-être revue le soir.
Espoir.
Et puis elles sont très nombreuses, ça ne servira à rien. Ça ferait seulement rire les acariens.
And the the same. If a fish stays too long in your belly, will turn to a stone. The shape of a baby. You can wait, you can wait, you can wait, and it can go away. Go, oh, 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 oh. Stay, yeah, 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 yeah. No, oh, oh. No, go away. Go.
Go away fish, par Lilt. Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête, rime de hasard pour poème à notre façon et la critique des bourrimés. Libres seront les poètes de raconter leurs histoires en octosyllabes, en déca, en alexandrin, sauf que pour notre jeu, les mots à la rime sont imposés. Chacun d'entre nous dans ce studio où nous travaillons a écrit sur des petits papiers des mots rimant entre eux deux à deux. Alors il y a Eva Almassi, Serge Oncourt, Lucas Fournier, Jacques Vallée, Jacques Abertrand, Patrick Beignet et moi. 10 papiers, soit 20 mots, vont être tirés au sort dans un chapeau par Eva Almassi et Jacques Abertrand, à eux d'écrire ensuite chacun un poème avec ces mots à la rime. Poème qui subira ensuite l'épreuve des critiques de Jacques Vallée et de Lucas Fournier. Les bourrimés, le tirage au sort. Eva Almassi, Jacques Abertrand pourront naturellement refuser des mots à condition de se mettre d'accord sur les refus, ce qui n'est pas si évident. Ce qui plaît à l'un peut déplaire à l'autre. Serge Oncourt, passez le chapeau à Eva Almassi qui va procéder au tirage au sort des 10 premiers.
De la main gauche
couples,
ou de la main droite?
À demander à votre associé Jacques Abertrand.
Oh, une fois de chaque.
D'accord. Je commence avec la main gauche.
D'accord. Pour les muscles, ce sera meilleur.
De Lucas Fournier.
Oui.
Yeti et spaghetti.
Yeti et spaghetti. Qu'en pensez-vous?
Pourquoi pas?
Ah, moi j'aime bien.
Il y a un très bel enthousiasme de la part de Jacques Abertrand.
Non, mais vous savez, les chants désespérés sont les chants les plus beaux. Et
oui.
On et en connaît d'immortels qui sont de pur sanglot.
Très bien.
Alors la main droite maintenant.
Exactement.
Ah, alors ça c'est pour moi. C'est toujours de Lucas Fournier, Danube.
Ah.
Et Jujube, c'est le Danube, je précise, qui est pour moi. C'est
oui, évidemment. Et bah, la pâte de Jujube, pourquoi pas.
On
c'est
peut
pas
pas
mal.
En refuser un sur les deux. Non.
Jujube, vous refuseriez quoi, Jujube?
Oh, Jujube.
Ah. Évidemment, c'est difficile de refuser le Danube pour Eva Almassi.
Non, non, mais
bah, garder
mais
Danube.
Non, refuser.
Non, non. Gare.
Avec le Yeti, il y a plus de Yeti au bord du Danube.
C'est trop facile pour vous.
Bon, alors
Danube,
non. Encore. D'accord,
alors on refuse le Danube.
Courageusement.
Alors, on tire un nouveau papier.
Un nouveau papier. Bah, j'arrive qu'à tirer du Lucas, c'est incroyable.
Mais il faut remuer, Eva.
Bah, c'est ce que je fais.
Mais tous les petits papiers sont de Lucas, alors
non,
c'est pas compliqué.
Oui, et c'est la Française des Jeux à lui seul. Sorbonne, Narbonne.
Ah bon, écoutez,
oui,
Je sens que vous allez regretter le Danube et la pâte de Jujube, mais bon. Hein.
Ouais.
Sorbonne, Narbonne, bon. On peut dire que la rime est tout à fait riche, hein, Jacques Vallée.
Toi, je t'attendrai à la
pâte de Gagne.
Donc, à nouveau la main
allez,
gauche.
Allez, cinquième et sixième mot, Eva.
Et c'est un mot de Jacques, enfin, paire de mots de Jacques Vallée. Lisbonne, bonbonne.
Alors, on a Sorbonne, Narbonne, Lisbonne.
Ah, mais ben ça fait beaucoup de
voyages. Ça fait beaucoup de voyages.
Ça, on refuse.
Oui, alors vous refusez. Oui. Très bien, vous mettez de côté.
Et puis, je ne suis pas allée à Lisbonne, alors.
Nouveau tirage.
Ressentiment. Nouveau tirage. Mais c'est incroyable.
C'est du Lucas.
C'est du Lucas. TVA, EVA.
Ah, puis il a le sens des mots qui inspirent.
Oui, tout à fait.
TVA, EVA.
Mais ça rime à Eva presque, donc presque. Moi je vais prendre.
Vous êtes d'accord, oui, Jacques Bertrand? Allez, prenons. TVA, EVA, remuez, prenez un autre genre de papier, je ne sais pas.
Je sais.
Prenez du Patrick Béni, on va tout de suite s'élever un peu plus.
Oui. Oh là là, Françoise, nichon, cornichon.
Ah oui, j'en suis assez contente. Nichon et cornichon, je vous signale que le verbe nicher...
Nichon et cornichon, très bien.
...est un verbe, comme je viens de le dire, nichon, cornichon. Et ces mots ont deux sens possibles, donc vous pouvez les employer dans un sens ou dans l'autre, le verbe nicher ou les deux sens.
Le verbe cornicher, oui.
Non, mais un cornichon, ça peut être le petit légume, ou ça peut être un imbécile.
Un corps entièrement composé de nichons.
Avec les spaghettis.
Je vous renvoie au tableau de tant de peintres magnifiques qui les ont fait tout nus, les nichons. Alors, nous en sommes à 2, 4, 6, 8 mots. Voilà. Évidemment, cornichon n'aurait sûrement plu à Serge Joncourt, qui aime bien faire dans l'alimentaire, mais c'est dommage, c'est pris. Hein. Oui, dans ce sens-là.
On a accepté les cornichons.
Alors, ensuite, Eva.
Alors, ça, c'est un mot de Eva, et pas une autre Eva, mais de moi. Trapéziste existe.
Trapéziste existe, vous voulez, Jaca?
Oui.
Bon, alors je passe le chapeau à son propriétaire.
Voilà, passez-moi le chapeau. Oui.
Dix mots suivants, Jacques Bertrand.
Ah non.
Tricheur, c'était quoi?
Ah là là, je ne saurais jamais.
Bon, il a remis le papier, on ne saura jamais ce que c'était.
Non mais, on n'a pas mis mes papiers, on n'a pas mis mes mots.
Oui.
Eva. Alors, Eva, poupée Barbie, Urbi et Torbi.
Oh ben, Urbi et Torbi et poupée Barbieux, ça va faire féminine et masculine, hein. N'est-ce pas, Jacques Vallée?
Exactement.
Et ça, on ne peut pas accepter, quand même.
Non. Ça, c'est le
on
dictionnaire.
On est désolé, Eva, mais on ne peut pas.
C'est
non,
pas
non,
vrai.
On ne peut pas.
Non. Autre choix, Jacques Bertrand.
Alors, des mots de moi.
Ah. Des mots de vous. Ah, ben
cornemuse et arquebuse.
C'est forcément bien, non?
Ah non.
Enfin non, Patrick Beignet fait l'amour. Hein.
C'est
un peu laborieux, je trouve.
Il n'y aura pas de poème moderne.
Bon, allez, on rejette cornemuse et arquebuse, tant pis. Prenez autre chose.
Alors, je ne sais pas où sont passés les... C'est incroyable, hein? J'ai pas mis une... De Lucas Fournier, chèque et mille chèques.
Chèque et milkshake. Le chèque s'écrit comme un chèque bancaire.
Le chèque bancaire.
Et milkshake. C'est pas mal, ça.
Oui, c'est bien. On a plein de nourriture.
Vous êtes bonne, vous. Le seul mot que je sors de moi, vous le refusez?
Ils n'y arriveront jamais.
Non.
Ah oui, ça, vous n'êtes pas prêt d'écrire vos poèmes. Chèque et milkshake. On prend donc, avec une grosse réticence de Jacques Bertrand.
Oui, oui. Énorme.
Oui. Alors, on en est juste à 12, hein. 13-14.
Alors, encore un bout de moi, il a vraiment fallu que je cherche. Kafka et Polka.
Bah, vous avez intérêt à accepter. Hein,
ça,
oui.
J'adore.
Bah, ils sont très bons en plus. Puis la rime est formidable.
Kafka, c'est la Hongrie, donc...
Mais oui,
c'est pas loin. Polka, c'est pas loin non plus. Hein.
Ensuite, Jacquard.
Alors...
15e et 16e mot. Je me demande si Patrick Beignet a écrit des mots, on les entend Eva. Jamais. Oui.
Dangereux entre eux. Je refuse.
La vengeance est un plat qui se mange à chaud.
Je m'en fiche, mais j'aimerais écrire des poèmes d'aujourd'hui. Et les rimes se font comme ça.
Patrick Beignet.
Ah.
Écho et écho.
Écrit de la même façon.
Écho, la portion, son écho, gagner son écho.
Ah.
Et écho, entendre l'écho.
Ah, vous prenez.
Oui,
moi, je crois que vous avez refusé suffisamment de mots. D'ailleurs, on va tout accepter maintenant. Hein. 17e et 18e mot, Jacques Bertrand.
Patrick Beignet, toujours. Adust.
Aduste,
Aduste, c'est
que
quoi?
Je ne connais pas. Oui. Et Auguste, que je connais bien.
Ben, c'est l'occasion d'augmenter votre vocabulaire, cher ami.
C'est quoi, Auguste?
Auguste, c'est desséché, brûlé par le soleil, par... voilà.
Mais c'est le résultat ou c'est un verbe?
C'est le résultat, c'est un adjectif.
Et qui est féminin ou masculin ou ce qu'on
Il est...
Toujours comme
des
ça.
Deux, ça dépend.
C'est un adjectif neutre. Ouais.
Oui, c'est ce que je viens de dire, si je ne me suis pas trompé.
Voilà,
il y a
bah,
un, très bel, un très bel exemple dans Locus Solus.
Oui, Raymond Roussel.
Oui, c'est un des rares exemples depuis le XVIe siècle. C'est un adolescent au teint adulte.
Ah. Dans Locus Solus. Dans Locus Solus.
Je vous avais bien dit que vous regretteriez Jujube.
Et Auguste, c'est le nom ou c'est
Ah non, mais là, c'est ce que vous voulez. Auguste, vous prenez le mot.
Je n'ai pas mis de majuscule, mais elle est acceptable.
C'est le geste Auguste du sommet.
Voilà. Voilà.
Oui, mais je précise, Jacques Bertrand, que nous sommes à la radio, on est dans l'oral, donc Auguste, vous le prenez dans le sens que vous voulez.
Mais c'est
ça,
comme
peut être le clown, ça peut être... C'est selon votre histoire, vous faites ce que vous voulez avec le mot Auguste.
Et avec Auguste aussi, si je peux m'immiscer. Dans
les deux derniers mots.
Serge, gargouille, magouille.
Bon, c'est bien ça, non? Oula. Je dirais qu'il y a besoin, par rapport à tous ces autres mots qui sont quand même très forts... Comme nichon, cornichon, TVA, EVA. Je me demande s'il ne faut pas un petit peu de magouille et de gargouille. Non, vous êtes tenté de refuser, Jacques.
Non.
Ah, c'est la TVA, hein. Soit c'est une magouille. Alors magouille et gargouille. Très bien. Ce n'est pas une liste facile, mais
non.
On va réécouter tous ces mots. Jacques Bertrand, lisez-nous les mots du début.
Alors, yéti, spaghetti, Sorbonne, Narbonne, TVA, EVA, nichon, cornichon, trapéziste, existe.
Eva, la suite.
Chèque, milkshake, Kafka, polka, écho, écho, Auguste, Auguste, gargouille, magouille.
Qu'est-ce que vous pensez de ces mots, Lucas Fournier? Si vous étiez confronté à eux, qu'est-ce que vous feriez comme genre d'histoire?
Ben, il y a des spaghettis, donc on en tire un et tout vient avec, en réalité.
Time after time, I tell myself that I'm so lucky to be loving you. So lucky to be the one you run to see in the evening, in the evening when the day is through. I only know what I know, the passing years will show. You've kept my love so young and new, and time after time you'll hear me say that I'm so lucky to be loving you.
Eva Almassi, Jacques Bertrand, ça s'est bien passé?
Oui, tout à fait.
Vous n'étiez pas toujours d'accord tous les deux sur le choix des rimes, ma foi, il y a eu des refus.
Nous avons eu quelques mots, effectivement.
Oui, des grimaces.
Ça s'est arrangé.
Évidemment, tout s'arrange toujours. Alors, il y avait Yeti, Spaghetti, des mots magnifiques, Sorbonne, Narbonne, TVA, EVA, évidemment, plus difficile, Nichon, Cornichon, Trapéziste, Existe, Chèque, Milkshake, Kafka, Polka, Écho, Écho, Auguste, je rappelle que ça signifie desséché. Auguste, magouille et gargouille. On va commencer par vous, Eva Almassi. Bon, ces mots sont bien, hein, on peut dire. Ils ne vont pas forcément tous les uns avec les autres,
ah, si.
Aussi bien qu'on le rêverait.
Ah,
si.
Ben, bien sûr que si.
Alors, est-ce que ce n'est pas la TVA qui vous pousse à écrire?
Ah non, TVA sur les livres.
Oui.
Non. Là, c'est vraiment le nom Auguste qui immédiatement a déclenché l'histoire.
Oui. Et vous vous appelez comment?
Ovidia.
Oui.
Et mon recueil s'appelle Tristesse au pluriel. Hein. Et il y a un sous-titre Histoire à chialer debout.
Oh, c'est un très bon titre, ça.
Et oui. Ça, c'est le premier poème du recueil.
Oui.
Et c'est le cirque triste.
Oui. Ben, ne riez pas, elle a dit que c'était triste, non, mais c'est Serge. Non, mais c'est très, très joli.
Cirque triste, c'est
très Moi, j'aime bien Histoire à chialer debout. Cirque triste.
On dirait un titre de Modiano. Hein.
Très vaguement. On écoute.
Contons l'histoire, car tout existe, du clown blanc, surnommé Auguste, sous un vaste chapiteau, Auguste, amoureux d'Anne, la trapéziste. Son chapeau rond à la Kafka le fait plus chic que le Yeti. Il est mince comme un spaghetti, dansant sur la piste la polka. La roulotte en route vers Narbonne, le bouche à oreille fait écho à l'art qui fournit leur écho, rarement étudié en Sorbonne. Si le directeur ne magouille, la fin du mois sera sans chèque, pas de champagne ni de milkshake, le ventre creux d'Auguste gargouille. Peau de vin et pas de TVA, sinon pain sec au cornichon. Les larmes coulent entre les nichons d'Anne et arrosent ses EVA.
Elle a un flot quand même, hein, parce qu'il faut que des larmes descendent jusqu'au nichon.
Si pauvre, si pauvre.
C'est beau. Moi, je voyais Serge très ému, surtout par l'usage des cornichons.
Mais je l'étais depuis le début.
J'attendais le latex.
Oui. Non, c'est une très belle histoire et qui mérite bien son titre, hein. Cirque triste. Jacques Vallée, bon, vous connaissez la petite Ovidia, c'est pas son premier recueil. Hein. On l'a déjà lu. Ça ne marche pas toujours, hein, mais parfois quand
mais
même.
Ça a l'air quand même très prometteur.
Et j'ai l'impression. et je sais que vous avez lu tout le recueil et que, bon, oui, là, pour gagner votre vie, vous faites comme nous tous des petits boulots ailleurs qu'au Papou. Hein.
Oh oui, hein, vous faites mais des... on gagne bien sa vie avec des petits boulots. Hein.
Évidemment, mais il faut en avoir plusieurs. Quoi. Donc Jacques Vallée, vous êtes bon critique théâtrale, ça on le sait, puis critique littéraire aussi. Et donc vous critiquez les recueils de poèmes en particulier, enfin sous pseudonyme, je sais bien que vous vous masquez un petit peu. Quel nom d'emprunt avez-vous choisi ?
Charlie Chopin.
Charlie Chopin. Oh, c'est un bon nom, ça. Oh là là.
Oui, et puis je travaille pour une petite revue.
Non, Jacques Bertrand, vous avez l'air dubitatif, Charlie Chopin. C'est...
Non, non, je suis étonné.
Ah oui, oui. On sent qu'il y a du potentiel sous ce nom. Hein. Oui.
Et puis, je travaille pour une petite revue de poésie, Les vers solitaires.
Oui.
Et alors, donc, j'ai fait un petit article, je dirais, plutôt chaleureux.
Plutôt, oh, le plutôt est un peu inquiétant.
Plutôt chaleureux pour Tristesse, histoire à chialer debout, oui. d'Ovidia,
oui.
dont le poème, surtout le cirque triste, a ému un peu toute la rédaction, vous allez voir. Ah. Donc, j'écris, nous avons lu Tristesse d'Ovidia, au comité de rédaction. C'est-à-dire, j'ai lu à haute voix ce magnifique recueil qui prend ses racines dans l'antique. C'est beau comme de l'antique. Dès la lecture du Cirque triste, le premier poème, l'équipe a commencé à fondre en larmes. Lorsque furent évoqués les pleurs de la trapéziste Anne, tant la force de cette poésie était convaincante, la directrice dut enlever son corsage couvert de pleurs.
Évidemment, les larmes coulaient dans les nichons. Et, oui, hein, ben oui. De
et demander justement une serviette pour s'essuyer.
Ah oui, d'accord, comme c'est délicat.
Vous dire dans quel état nous avons atteint le dernier poème, l'adieu aux larmes. Toute l'équipe s'est retrouvée nue à ses projets.
Ah, et ça vous fait rire, la nudité, hein, Jacques Vallée.
Toute l'équipe s'est retrouvée nue à s'éponger mutuellement, à essuyer ses pleurs. Mmh. Avant d'atteindre cette apothéose, nous avons traversé, avec force Kleenex, les yeux mouillés, dont le thème est le petit déjeuner d'une Bretonne avec son chien danois. Puis pleurnicherie et chuchotement, l'amour tumultueux d'une poétesse belge avec son amant japonais. Ou encore, pleure contre mon épaule.
Non, mais c'est des livres à chialer debout, oui. évidemment. Oui, mais l'émotion. À force de rire, parfois on pleure de rire.
Ou encore, pleure contre mon épaule qui raconte les aventures d'un lutteur de foire avec un boxeur norvégien. Bref, nous recommandons à nos lecteurs de prévoir un bon lot de mouchoirs s'il veut épuiser toutes les richesses de ce nouveau recueil d'Ovidia.
sans contexte, la poétesse qui laisse des traces, pas seulement dans le cœur de ses lecteurs. Et c'est signé Charlie Chopin. Voilà.
Oh, bon, écoutez, mais peut-être qu'on pourrait vendre le paquet de Kleenex avec le livre, non ?
C'est dithyrambique, parce que d'habitude, au vers solitaire, ils sont plutôt teigneux.
C'est vrai. Ben, je suis très contente pour la poésie contemporaine, déjà avoir un article,
c'est énorme,
en plus dans les vers solitaires, oui, et en plus imaginer cette réunion de la rédaction, c'est merveilleux. Oh là là, oui, c'est... J'en ferai la thématique de mon prochain recueil.
Are strong around that Cupid fellow. Behold, the moon is yellow and the night is young.
Jacques Bertrand, vous avez eu les mêmes mots qu'Eva.
Oui, à peu près, oui, il me semble.
Et oui, ben j'espère en tout cas. Je ne sais pas si l'inspiration est aussi mélancolique.
Non, un peu plus trouble, mais moins mélancolique.
Oui.
Voilà, on pourrait dire ça comme ça.
Et le mot qui vous influence ?
Tous. Je pense que c'est Yeti au départ.
Quoi. Ah, c'était le premier en plus.
Oui,
hein.
J'ai tiré sur Yeti, oui.
Ouais, voilà. Ouais. Et vous publiez sous votre nom ou pas ?
Alors non, je publie sous un pseudonyme, Vicky Claustro.
Ah oui, qui serait un prénom de femme donc ?
Non, avec non. Un Y, ça peut être très bien.
D'accord, Vicky Claustro, oui. Ça se trouve dans un recueil.
Le recueil s'appelle Les Hallucinations.
Oui.
Et le poème s'appelle Balade, balade, un L, deux L.
Ah, intéressant ça.
Ah, ça, c'est très intéressant.
Oui, oui. Balade, balade. Ça pourrait presque se chanter, ça.
Oh.
Non, mais je ne vous le demanderai pas.
N'exagérons pas.
Allez, on vous écoute.
Je marchais ce soir-là place de la Sorbonne, d'une belle eau-de-vie de la vieille Narbonne ayant fort abusé, après les spaghettis. À Cluny, je crus voir le spectre d'un yéti. À ça, me dis-je, oh là, suis-je donc cornichon ? Dans quelles illusions nos rêves nous nichons ? Je résolus d'aller noyer dans un milkshake les vapeurs de l'alcool, et je payais par chèque. Le bistrot me compta bien sûr la TVA. Il avait possédé tout un bois d'EVA en Afrique jadis, mais c'était des magouilles. Et il s'était tiré, car ça sentait l'aduste. Ainsi désigne le roussi Patrick Auguste. Oui. J'allais encore moins bien, je voyais des gargouilles.
Oh.
Mieux, j'entendais un air, c'était une polka. Tout cela me donnait un air à la Kafka. Quand il vint à passer un danseur trapéziste, on peut se demander si le réel existe. Il faudra bien demain repayer son écho. Chanceux si de tout ça, nul ne se fait écho.
Mais oui, absolument, c'est beau. Hein.
Oui, il faut qu'il arrête l'autre vie quand même. Mais,
Et oui, mais hallucination, après il passera peut-être au réel, dans un autre recueil. Lucas Fournier, vous le connaissez, oui. Vicky Claustro. Enfin bon, il écrit sous d'autres pseudonymes aussi, c'est quelqu'un qui se masque beaucoup. Il fume beaucoup de choses.
Il ne fait pas qu'écrire, il a d'autres activités, à mon avis.
Oui. C'est notre alcool du 21e siècle, c'est notre petit Apollinaire du 21e siècle.
Hein. Je cherchais le
voilà,
mot.
C'est ça, ben, vous l'avez trouvé.
Petit
Apollinaire. Et le pont Mirabeau est juste à côté, là.
Absolument, et hallucination, quelle chance est sortie. On peut le trouver dans la presse, et il y a même un certain critique. On ne sait pas, il se cache un peu sous pseudonyme, mais sous le pseudonyme apparaîtrait Lucas Fournier, peut-être, qui a écrit une critique très bonne, je suppose, Lucas
très
Fournier.
Bonne. Très bonne.
Oui, parce que c'est excellent, ça.
Oui, c'est excellent, et puis c'est quelqu'un qu'on aime bien, nous.
Oui.
Je fais des piges à Rugby Hebdo.
Ah oui.
C'est l'hebdomadaire du rugby.
Oui, et la connexion avec la poésie.
Et je signe sous le nom de André Bonnicarrère.
Ouais.
Et ben la connexion avec la poésie, elle est évidente et vous allez la comprendre tout de suite.
Ah bon, ah bon.
Oui. Le rugby, c'est comme le piano. Il y a ceux qui en jouent et il y a ceux qui les déménagent. La poésie, c'est pareil. Vicky Clostro, une ancienne du glorieux Racing Club Narbonnais, championne de France 119, surnommée le mal-aimé sur tous les terrains parce qu'il était toujours attendu à bras ouverts mais poings fermés. Vicky nous propose un livre imprimé. Nos lecteurs habitués des déambulations nocturnes après les matchs du tournoi et qui zonent et qui ne savent pas où aller dans Paris, en dehors de la rue de la Soif, rue Princesse, métro Odéon, trouveront dans Hallucination à la fois des adresses où boire avec des aficionados, mais aussi quoi boire. Le premier circuit nous propose d'aller chez Kafka. Kafka, une ancienne de Lourdes et de Vichy, mais qui n'a jamais bu d'eau de sa vie, mais de l'eau de vie, oui. Hein. Alors métro Cluny, une station après la rue de la Soif. Clostro, qui a longtemps joué troisième ligne, était l'enchanteur et bourrifant de notre troisième mi-temps. Hein. La poésie et surtout les vers, ça le connaît. Troisième ligne, elle, il en met tantôt un, elle, à balade quand il est à Gen. On se souvient du à Gen-Narbonne de la demi-finale. Et deux, quand il ne l'est plus. Hein. À moins que ce ne soit Polka plutôt que Kafka. Hein. Polka, un ancien du FC Hoche. Et à la question souvent posée, comment doit-on appeler les habitants du département dans lequel vivent les oursitains, eh bien, Clostro nous donne la réponse. On digère avant de passer à table et on digère après. Ajoutons que le livre de Clostro tienne à la poche, ce qui est pratique quand on est main pleine. Hein. Le Ricard aux trois quarts, la bière à l'arrière, le demi au demi, le vin blanc aux avant, comme on dit chez nous, et j'ajouterai Clostro à l'apéro. Parce que cerise sur le gâteau, le livre de Clostro, il rime. Et pas qu'avec de l'eau. Comme quoi ?
Qu'est-ce que c'est élogieux, évidemment. Bon, il faut lire Rugby Magazine. Hein.
Hebdo,
pardon. Ouais. Ah oui, je suis désolée, je confondais avec l'autre. Hein. Voilà. Mais pour avoir connaissance de votre livre, enfin, c'est pas mal. D'autant que je crois que vous avez fait du rugby, Jacques Bertrand.
Oui, bien sûr. Oui.
Ah oui, donc ça vous va droit au cœur.
Oui, et puis c'est la seule revue qui a l'accent, quand même.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par François Strossard avec Bruno Mourlan et Franck Lilin. À retrouver sur franceculture.fr pour les téléchargements pendant un an, la réécoute directe sur ordi, tablette pendant 1000 jours, à la page des papous sur laquelle vous pouvez déposer vos remarques, questions, suggestions, rubrique commentaires des papous du jour. Et puis faites un tour dans nos pages Livres des papous et Vie du club, c'est une expérience de tourisme minimale qui vous permettra de tout savoir ou presque sur nos activités hors radio, expo, livres, ateliers d'écriture, de chant, spectacle. Vous écoutiez le dernier numéro des papous dans la tête de la saison, c'est les vacances pour nous. Mais on se quitte sans vraiment se quitter, puisque nous serons présents sur France Culture tout juillet-août à la même heure, midi 45, 13h58, pour la rediffusion de bons vieux numéros des saisons passées. France Culture vous accompagne tout l'été. Passez de jolis moments à l'écoute. Pour l'heure, c'est Antoine Perrault qui prend le relais avec Tire ta langue. Au revoir.